VOA Afrique, le monde aujourd'hui. À Washington.
Bonjour à tous et à tout le monde aujourd'hui, édition du mercredi 30 mai 2018. En direct de Washington, Idrissa Sedoudia
et Anne Albertson.
Nous commençons par les titres.
Au Mali, poursuite de la visite du secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, arrivé hier à Bamako à l'occasion de la Journée internationale des casques bleus.
En République centrafricaine, l'Assemblée nationale a adopté la loi ratifiant le règlement de la Cour pénale spéciale, la CPS.
À Dakar, au Sénégal, poursuite aujourd'hui des plaidoiries au procès pour terrorisme de 29 djihadistes présumés.
L'armée israélienne a frappé dans la nuit de mardi à mercredi des dizaines de cibles dans la bande de Gaza en représailles à des tirs de roquettes et d'obus.
Rencontre cette semaine à New York entre le secrétaire d'État américain Mike Pompeo et l'un des plus hauts responsables nord-coréens.
Et ne manquez pas notre page sport ainsi que la Minute Éco pour l'instant, le journal.
Antonio Guterres, secrétaire général de l'ONU, est arrivé hier à Bamako pour passer la journée internationale des casques bleus aux côtés de la mission de l'ONU au Mali. Le point avec Morgane Guiriec.
Accueilli à l'aéroport par le président Ibrahim Boubacar Keïta, Antonio Guterres a commencé hier une visite de 2 jours au Mali. Il s'est aussitôt rendu à la base de la MINUSMA pour un hommage aux casques bleus tombés en 2017. Il a déclaré que c'est un honneur de passer la journée des casques bleus avec les hommes et femmes courageux qui servent dans notre mission la plus meurtrière pour nous l'année dernière. D'après les Nations Unies, en 2017, 21 casques bleus et 7 civils ont été tués au Mali. Déployée en 2013, la mission onusienne compte quelque 12 500 soldats et policiers. Elle a perdu plus de 160 casques bleus, dont 102 dans des actes hostiles. C'est la mission onusienne la plus périlleuse au monde.
Et nous reviendrons sur cette visite de M. Guterres au Mali dans la seconde partie de cette édition.
Au procès pour terrorisme de 29 djihadistes présumés devant un tribunal de Dakar, les avocats des deux principaux prévenus ont plaidé hier l'acquittement de leurs clients. Le parquet avait réclamé des peines de 5 ans de prison à la perpétuité pour la majorité des accusés. Le point avec Abdourahman Diab.
Les accusés, dont 3 femmes, sont poursuivis pour terrorisme, association de malfaiteurs et blanchiment de capitaux. Il leur est reproché d'avoir voulu installer des bases djihadistes dans le sud et dans le sud-est du Sénégal. Pour leur défense, ils sont représentés par une 60aine d'avocats. Aucun élément à charge n'a été retenu contre Martar Diohane pour qu'il puisse être condamné à perpétuité, a plaidé hier son avocat, maître Alassane Cissé. L'un des avocats de l'imam Alundao a lui aussi plaidé l'acquittement de son client et de l'ensemble des prévenus. Le 14 mai, le procureur Ali Sire Ndiaye avait réclamé les travaux forcés à perpétuité pour Martar Diohane, présenté comme l'idéologue. Le parquet avait aussi requis une peine de 30 ans de travaux forcés pour l'imam Alundao, accusé d'être le coordonnateur du groupe. Ce procès, placé sous haute sécurité, avait démarré le 9 avril et les plaidoiries doivent se poursuivre aujourd'hui à Dakar.
En République centrafricaine, l'Assemblée nationale a adopté la loi ratifiant le règlement de la Cour pénale spéciale, la CPS, qui doit juger les crimes commis dans le pays depuis 2003, selon le ministre de la Justice, Flavien Mbata, sur Twitter. La Cour pénale spéciale a été créée en 2015, mais n'est pas encore opérationnelle. L'adoption de cette loi à l'Assemblée donne les moyens légaux à la CPS de commencer ses enquêtes.
Au Gabon, un membre de la garde républicaine a été blessé par balle lundi dans le centre de Libreville, alors qu'il était en mission à prière, l'AFP, auprès de la présidence et de sources diplomatiques occidentales. Ce militaire était positionné avec d'autres membres de la garde à proximité du grand lycée public Léomba, où devait passer le convoi du président Ali Bongo. Lorsqu'une voiture s'est arrêtée à sa hauteur, un des occupants a baissé la vitre et a tiré sur lui au moins une fois. Les tireurs ont réussi à prendre la fuite et leur véhicule est activement recherché. Une enquête a été ouverte. Ce type d'incident est sans précédent au Gabon.
Aux Comores, le colonel Azali avait annoncé fin avril la tenue d'un référendum constitutionnel qui pourrait lui permettre de briguer plusieurs mandats présidentiels successifs. Si le non l'emporte, le président termine son mandat, mais si c'est le oui, il remettra son mandat en jeu. Des détails avec Irénée Herman Oungbo.
Le chef de l'État sortant ne peut pas se représenter pour un deuxième mandat en vertu du principe de la présidence tournante entre les trois îles qui composent l'Union des Comores. Si le oui l'emporte le 29 juillet, des élections présidentielles et législatives anticipées seront organisées en 2019 au lieu de 2021. Le porte-parole de la présidence a justifié la nécessité de modifier la constitution à cause des lourdeurs du système constitutionnel actuel et qui pour lui constitue un frein au développement. Depuis plusieurs mois, l'opposition dénonce des abus du pouvoir du régime Azali. Outre son projet de référendum, il a récemment suspendu la Cour constitutionnelle, assigné à résidence l'un des chefs de l'opposition, son prédécesseur Ahmed Abdallah Sambi, et interdit les manifestations dans l'archipel. Les Comores, petit archipel pauvre de l'océan Indien, ont pendant de nombreuses années connu une forte instabilité politique, caractérisée par des crises séparatistes et des coups d'État.
Le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, a salué hier dans un communiqué la déclaration politique adoptée à Paris par les principaux acteurs libyens en faveur d'élections le 10 décembre, pour sortir leur pays du chaos. Il s'agit d'une étape significative et bienvenue dans la transition politique en Libye, a-t-il souligné dans un communiqué de son porte-parole Stéphane Dujarric. Les quatre signataires de la déclaration sont le premier ministre d'Union nationale Fayez al-Sarraj, son rival le maréchal Khalifa Haftar, homme fort de l'est du pays, le président de la Chambre des représentants Aguila Sala, basé à Tobrouk, et celui du Conseil d'État à Tripoli, Khaled al-Meshri.
L'Éthiopie a libéré mardi un haut responsable d'un groupe d'opposition armée dont l'arrestation et l'extradition du Yémen en 2014 avaient été critiquées internationalement, notamment par la Grande-Bretagne. Andar Gachutsige, un anglo-éthiopien, fait partie des centaines de prisonniers graciés la semaine dernière et qui ont quitté leur prison, a rapporté la radio-télévision proche du pouvoir, Fana Broadcast Corporate. Le secrétaire au Foreign Office britannique, Boris Johnson, s'est félicité de la libération d'Andar Gachou.
Vous êtes à l'écoute de VOA Afrique.
L'armée israélienne a annoncé avoir frappé dans la nuit de mardi à mercredi 25 objectifs militaires liés au Hamas dans la bande de Gaza en réponse à des tirs de roquettes et de mortiers. Parmi les cibles figuraient des ateliers pour la fabrication de roquettes, des abris pour des drones ainsi que des infrastructures militaires. Mardi, au premier jour de cette opération, la confrontation la plus sévère entre Israël et les groupes armés palestiniens depuis la guerre de 2014, Israël avait déclaré avoir frappé plus de 35 objectifs militaires du groupe islamiste qui dirige la bande de Gaza, ainsi que contre le djihad islamique.
Le secrétaire d'État américain Mike Pompeo doit rencontrer cette semaine à New York un des plus hauts responsables de Pyongyang dans le cadre des préparatifs du sommet prévu entre le président Donald Trump et le leader nord-coréen Kim Jong-un, selon la Maison-Blanche. Kim Yong-chol, vice-président du puissant comité central nord-coréen et ancien chef des services d'espionnage, a fait hier une brève escale à Pékin avant de prendre un vol pour New York. M. Trump avait auparavant déclaré dans un tweet « Bonne réponse à ma lettre, merci ».
Le ministre de la Défense des États-Unis, Jim Mattis, souligne que les navires américains continueront de passer près des îles revendiquées par la Chine en mer de Chine méridionale, malgré les protestations croissantes de Pékin. Ce sont des opérations liées à la liberté de navigation et vous remarquerez qu'il n'y a qu'un pays, c'est-à-dire les États-Unis, qui semble prendre des mesures concrètes pour dénoncer ces agissements, a déclaré M. Mattis dans l'avion le conduisant à Hawaï, première étape d'une tournée en Asie.
En Belgique, deux agents de police et un jeune homme ont été assassinés à Liège. L'assaillant, d'après la presse belge, était un détenu en permission qui s'était récemment radicalisé. Le point avec Marie Benson.
Trois personnes ont été tuées par un homme de 36 ans à Liège. Identifié par les médias comme étant Benjamin Herman, il s'était radicalisé suite à des contacts avec un islamiste en prison. Il a aussi tiré sur quatre policiers qu'il a blessés. Selon Christian Beaupère, chef de la police de Liège, l'objectif premier de l'assaillant était de s'en prendre à la police. L'enquête a été confiée à un juge d'instruction antiterroriste. Le parquet fédéral doit donner des précisions ce matin à Bruxelles. Depuis 2016, 3 attaques terroristes ont été recensées en Belgique, mais l'organisme chargé d'évaluer la menace terroriste a décidé de maintenir inchangé le niveau 2, correspondant à une menace jugée peu vraisemblable.
Eh bien, les États-Unis ont déclaré hier que la liberté religieuse est assaillie à travers le monde. Ce constat a été fait par l'ambassadeur itinérant chargé de ce dossier, Sam Brownback, lors de la présentation du rapport annuel du Département d'État en compagnie du chef de la diplomatie américaine, Mike Pompeo. Selon M. Brownback, plusieurs pays sévissent contre les fidèles de certaines religions et les punissent sévèrement pour leurs croyances. La Corée du Nord a été citée à cet égard, ainsi que la Birmanie et le sort des musulmans Rohingyas, qu'il a qualifié d'épuration religieuse. Il a aussi exprimé des soucis au sujet du Nigeria, où il compte aller bientôt, en y signalant beaucoup de conflits. La Chine, l'Iran et la Russie, entre autres, ont été pointés du doigt dans le rapport.
Fin de ce journal sur VOA Afrique. Vous écoutez Le Monde aujourd'hui.
La Minute Éco, Eric Manirakiza.
Kenya Airways envisage un partenariat avec son rival sud-africain South African Airways pour contrebalancer l'hégémonie du leader africain du transport aérien Ethiopian Airlines et redynamiser leurs activités. Cette coopération pourrait aller d'un simple accord de partage de code pour une vente réciproque de billets à un plus vaste accord de co-entreprise. La compagnie kenyane envisage également un accord de partenariat plus poussé avec Air Mauritius Limited. Afrexibank va accorder un soutien financier de 2 milliards de dollars à l'Angola. Ce montant sera essentiellement destiné à financer les importations dans les secteurs de l'alimentation et de la santé. Les banques auront aussi la possibilité d'émettre des lettres de crédit dans le cadre de ces mêmes importations. Afrexibank compte également débloquer 1 milliard de dollars pour stimuler les investissements du secteur privé dans les secteurs industriels non pétroliers du pays. En Tunisie, la Banque centrale juge le moment propice à l'émission d'1 milliard de dollars d'euros obligations. Cette opération a été initialement prévue en mars dernier, mais a été reportée pour des raisons conjoncturelles. Elle s'inscrit dans le cadre de la mobilisation des ressources au profit du budget de l'État prévu dans la loi de finances de 2018 et pour répondre aux besoins de l'État en devise en vue de financer le déficit budgétaire ou le déficit courant.
À présent, les sports avec Yacouba Ouédraogo. Yacouba, bonjour.
Bonjour Idrissa, bonjour à tous.
Salah indisponible pour 3 à 4 semaines.
C'est l'annonce faite par l'un des physiothérapeutes de Liverpool. Ruben Pons a estimé que l'attaquant égyptien aurait normalement besoin de 3 à 4 semaines pour se remettre de la blessure à l'épaule gauche subie samedi en finale de la Ligue des Champions contre le Real Madrid. 3 semaines d'absence signifieraient que l'égyptien serait indisponible jusqu'au 16 juin, 4 jusqu'au 23 juin. Or, les pharaons démarrent leur mondial dans le groupe A le 15 juin contre l'Uruguay avant d'affronter la Russie, pays hôte, le 19 juin et l'Arabie Saoudite le 25 juin.
Le TP Mazembe a un nouveau directeur technique.
Directeur du centre de formation du TP Mazembe, la Katumbi Football Academy, depuis 2012, Régis Lagesse prend du galon. Les Corbeaux de Lubumbashi ont indiqué que le technicien français de 68 ans sera promu directeur technique du club louchois à partir du 1er juin. Ancien joueur en France, Lagesse a notamment contribué à la formation de la génération des frères Touré, de Kalou et de Gervinho en Côte d'Ivoire avec la SEC Mimosa.
Pas de retransmission des matchs du Mondial sur écran géant dans tous les espaces publics en France.
Les retransmissions sur écran géant des matchs du Mondial seront strictement encadrées et ne seront pas autorisées dans l'espace public sans mesures de sécurité draconiennes en raison de la menace terroriste, d'après le ministre français de l'Intérieur. La Coupe du Monde de football se déroulera, on le rappelle, du 14 juin au 15 juillet en Russie.
Lourdes sanctions pour le président de la Fédération togolaise de boxe.
Et oui, le bureau exécutif du Comité national olympique du Togo a suspendu Tessilimi Toto, président de la Fédération togolaise de boxe, de toute activité liée à la gestion des associations sportives pour une période de 5 ans. Il est reproché à M. Toto, élu il y a 1 an à peine, des dysfonctionnements au sein de sa fédération après que des athlètes aient participé à une compétition à l'extérieur du pays sans autorisation. Il s'agit du tournoi de boxe de la zone 2 organisé du 27 au 30 mars 2018 à Conakry, en Guinée donc.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
De nouveau avec vous, Idrissa Sédoudia. Nous passons maintenant à nos dossiers du jour. En République démocratique du Congo, audit du fichier électoral, les experts de l'Organisation internationale de la francophonie, l'OIF, ont, à l'issue de leurs travaux, déclaré ce fichier inclusif, exhaustif et actualisé, mais perfectible. La synergie des missions observation citoyenne des élections, la CIMOCEL, fait des recommandations pour un consensus autour du dit fichier. Eddie Sango a interviewé le coordonnateur adjoint de la CIMOCEL, Emmanuel Kazadi.
À la publication du rapport des constatations de l'OIF, il s'est avéré qu'il y avait certaines faiblesses encore qui ont été relevées et qui font que la CENI devait continuer davantage à rendre le fichier beaucoup plus inclusif, rendre le fichier plus performant de manière à ce que toutes les parties prenantes au processus électoral puissent concourir effectivement à cette compétition-là.
Sur les plus de 4 millions d'électeurs qui sont retenus sur la liste après les nettoyages du fichier électoral, l'OIF dit qu'il y a plus de 16% qui sont des électeurs mais sans empreinte digitale. Comment pensez-vous que la CENI puisse résoudre ces problèmes? Là, à quelques mois des élections maintenant.
L'OIF a dégagé les 16%, plus de 4 millions d'électeurs, mais l'OIF a demandé à la CENI de pouvoir s'y investir. Donc, il revient maintenant aux parties prenantes au processus électoral, c'est-à-dire les partis politiques et tout le monde, de pouvoir encore se mettre ensemble et de voir dans quelle mesure la CENI peut dégager des mécanismes qui peuvent permettre de casser ou de préparer un fichier qui est viable, un fichier acceptable par tout le monde, pour éviter que demain après-demain, cela ne soit pas un prétexte pour les partis politiques ou d'autres compétiteurs ou regroupements politiques à pouvoir tirer sur le fichier et dire que ce fichier n'est pas fiable. Et cela peut retarder le processus et causer encore d'autres conséquences sur le plan juridique.
Pensez-vous qu'il y a suffisamment de temps?
Tout dépend de la manière dont la CENI peut présenter un chronogramme qui lui permettrait maintenant d'enclencher un certain nombre de mécanismes à pouvoir soit écraser les doublons, à pouvoir tenir compte de tous ces écarts. Et cela de manière à ce que toutes les parties prenantes et surtout les partis politiques qui sont en compétition électorale puissent faire un travail de plaidoyer. Sinon, on ne saura pas effectivement ou réellement ces électeurs là qui se trouvent dans le fichier seront à combien et les 16%, si on n'a pas résolu ce problème, on ne saura pas qu'adviendrait-il le jour des scrutins.
L'OIF elle-même ne dit pas que les 16% d'électeurs sans empreinte digitale devraient conditionner la tenue des élections.
Non, si l'OIF ne l'a pas dit, mais les partis en compétition électorale, c'est pour cela nous, en tant qu'émission d'observation, nous tirons une sonnette d'alarme pour dire que cela ne devrait pas être un prétexte pour retarder le processus.
Vous appelez aussi à un consensus autour de la machine à voter, mais le président de la Commission électorale nationale indépendante, Corneille Nangaa, a déjà dit que sans machine à voter, pas d'élection au 23 décembre.
Lorsque on prend cette donne-là, par rapport au calendrier électoral, qui ne prévoit rien de la machine à voter. Le tout, ce n'est pas d'obtenir le consensus autour de la machine à voter, mais c'est de voir est-ce que cela a été opportun.
C'était Emmanuel Kazadi, coordonnateur adjoint de la CIMOCEL Synergie des missions observation citoyenne des élections à Kinshasa.
Vous êtes bien sur VOA Afrique, 24 heures sur 24 en RDC, à Lubumbashi évidemment sur le 102.8 FM.
Retour sur la visite du secrétaire général des Nations Unies, Antonio Guterres, qui est arrivé hier à Bamako pour un séjour de 48 heures au Mali. Après avoir été accueilli à l'aéroport par le président Ibrahim Boubacar Keïta, M. M. Guterres a ensuite participé, en compagnie du Premier ministre Soumeilou Boubey Maïga, à la journée internationale des casques bleus. Le patron de l'ONU a salué à cette occasion la contribution des soldats de la paix de la MINUSMA déployés au Mali. Il se rend aujourd'hui à l'intérieur du pays pour visiter les camps de la MINUSMA. Compte rendu de notre correspondant Kassim Traoré.
Quand la solidarité pousse le secrétaire général des Nations Unies à faire une visite de 48 heures au Mali, le Mali, pays de tradition, ne peut que l'accueillir à bras ouverts. C'est pour cela que le président de la République, Ibeka, était parmi les officiels maliens pour souhaiter la bienvenue à Antonio Guterres, secrétaire général des Nations Unies.
Cette visite est une visite de solidarité. Je dirais même de double solidarité. Premièrement, de solidarité avec le peuple malien, en correspondant cette année à la visite que je fais au mois de Ramadan à un pays musulman, visite pendant laquelle je fais le jeûne pour exprimer mon hommage non seulement au peuple malien mais à la Umma musulmane, à l'Umma islamique partout dans le monde.
Vu la situation que connaît le Mali avec la crise sécuritaire, Ibeka trouve que le message du secrétaire général des Nations Unies est adressé à toute la sous-région.
Son message parlait le Mali, s'adresse à l'ensemble de l'humanité aujourd'hui, mais singulièrement toutes nos zones, tous ces pays-là du Sahel, agressé aujourd'hui par ce que nous savons, par non seulement le terrorisme qui nous vient d'ailleurs, également tous ces trafics dont nous sommes victimes aujourd'hui. Être humain, je veux bien tout cela et je pense que nous n'avons pour M. Guterres, Frigola, que des mots de remerciement.
Le secrétaire général des Nations Unies s'est rendu au camp de la force de la MINUSMA où il a assisté à une cérémonie en hommage au casque bleu décédé. Il a déposé une gerbe de fleurs devant le mémorial de la MINUSMA.
Aujourd'hui, vous travaillez dans un cadre où la paix n'est pas assurée. Vous travaillez dans un cadre où il y a des groupes terroristes qui ne respectent rien et personne. Vous travaillez dans un cadre où il y a des trafics de drogue, d'êtres humains, armes. Et toutes ces choses sont interliées. Et toutes ces choses créent un environnement extrêmement dangereux, non seulement pour les populations civiles, mais aussi pour vous-même.
Le premier ministre malien était de la cérémonie. Une cérémonie qui s'inscrit dans le cadre de la célébration de la journée mondiale des casques bleus. Soumeilou Boubey Maïga.
Ces activités terroristes ont malheureusement coûté à la MINUSMA, à la force française Barkhane et aux forces maliennes des pertes en vies humaines et des dégâts matériels importants. Je voudrais ici rendre un hommage particulièrement appuyé aux 172 membres du personnel qui sont tombés sur le champ d'honneur dans notre pays. Je souhaite prompt rétablissement aux 536 blessés au cours des diverses opérations au Mali.
Les maintiens des paix des Nations Unies opèrent dans un environnement toujours aussi difficile. Selon le patron de l'AMINUSMA, le cas du Mali n'est pas une exception. Mamad Saleh Anadif.
En mars dernier, vous avez lancé une initiative intitulée Action pour le maintien de la paix et qui vise, parmi tant d'autres objectifs, à améliorer les performances et à s'assurer que les opérations de maintien de la paix sont adaptées pour faire face au théâtre des opérations toujours plus complexes, toujours plus dangereuses.
Après cette première étape bamakoise, le secrétaire général des Nations Unies se rend ce matin à l'intérieur du pays pour visiter les camps MINUSMA, échanger avec le personnel militaire et civil. Kassim Traoré, VOA Afrique.
Restez branchés 24h/24 sur VOA Afrique à Bamako, au Mali, sur 102.0 FM.
Au Burkina Faso, les syndicats du ministère de l'économie, des finances et du développement tiennent depuis hier, et ce jusqu'au 1er juin, des sit-ins sur leur lieu de travail. Ils réclament le respect par le gouvernement de ses engagements et protestent contre des mesures que le gouvernement envisage de prendre. Yacouba Ouédraogo a joint Adama Bayéré, représentant de la coordination des syndicats du ministère de l'économie et des finances.
Le mot d'ordre est tiré sur toute l'étendue du territoire national, en dépit de la répression qui est abattue sur les travailleurs qui sont en lutte.
Quel genre de répression?
Le gouvernement a déployé des éléments de la compagnie des républicains de sécurité et de la gendarmerie nationale dans toutes les directions et services du ministère de l'économie pour empêcher tout regroupement des travailleurs. Mais malgré cette présence policière, les camarades travailleurs ont pu quand même observer des sit-ins devant les directions ou dans les locaux des directions du ministère. Tous les travailleurs ont fait preuve d'une discipline quand même salutaire, ce qui a évité tout affrontement avec les forces de l'ordre.
Vous dites que le mouvement est suivi. On apprend que le syndicat des douaniers n'a pas observé le mot d'ordre de sit-in. Le mouvement ne se disperse-t-il pas?
Le pas du tout. Il faut noter le caractère particulier du corps et de la douane, parce que c'est un corps paramilitaire et il y avait déjà des velléités de répression de la part du gouvernement. Donc, pour éviter des affrontements entre la police ou la gendarmerie, et puis il a été décidé que les camarades douaniers puissent ne pas faire le sit-in comme les autres travailleurs du ministère le font, mais le syndicat reste solidaire de la lutte.
Qu'est-ce que vous réclamez concrètement au gouvernement?
Les travailleurs du ministère réclament tout simplement que le gouvernement respecte ses engagements. En plus, il y a des réformes que le gouvernement veut entreprendre au sein du ministère qui véritablement constituent un danger pour les carrières des travailleurs, mais également un danger même pour les finances publiques pour notre pays.
Quel engagement le gouvernement a pris qu'il n'a pas respecté?
Par exemple, il y a la question des cotisations syndicales qui est un engagement avec le gouvernement qui constitue à la retenue à la source et des cotisations syndicales et des cotisations pour les mutuelles dont le ministre des Finances a décidé de mettre terme unilatéralement. Ensuite, il y a la question du carburant, du fonctionnement pour les travailleurs. Et le ministre a pris un arrêté pour dire désormais qu'il n'y a plus de carburant pour les sorties sur les terrains. Ensuite, il y a la question également des motivations financières. On a demandé qu'il y ait des statuts sécurisants pour le personnel du ministère. Aujourd'hui, on nous tendons vers une privatisation des finances publiques. Il y a trois mesures fondamentales que le ministre veut faire passer. Un, c'est l'érection de la direction générale des impôts en établissement public d'État, ce qui est contraire véritablement au caractère de souveraineté d'État de l'impôt. Il y a la question, par exemple, des guichets banques qu'elle veut installer au sein des services des impôts. Et nous avons estimé qu'il y a des travailleurs qui sont là pour faire le travail. Ensuite, le gouvernement veut également donner le recouvrement des créances fiscales à des privés, alors que nous sommes formés pour ça.
La semaine dernière, vous étiez en grève. Cette semaine, vous êtes en sit-in. Le sit-in a été déclaré illégal dans un avis rendu par le Conseil d'État, qui est quand même la plus haute juridiction administrative du pays. Ne craignez-vous pas d'être sanctionné?
Aucun gouvernement ne va applaudir quand les travailleurs vont en lutte. C'est un avis que le Conseil d'État a donné. Ce n'est pas une décision que le Conseil d'État a rendue. Ensuite, il y a la constitution du Burkina Faso qui quand même garantit la liberté de manifester.
C'était Adama Bayiré, représentant de la coordination des syndicats du ministère de l'Économie et des Finances, joint à Ouagadougou.
Restez branchés sur VOA Afrique à Ouagadougou sur 102.4 FM au Burkina Faso.
Au Sénégal, le président Macky Sall a augmenté les bourses des étudiants et réduit les prix des repas dans les universités publiques du pays. C'est à la suite de la grève des étudiants déclenchée depuis la mort d'un des leurs, au cours d'affrontements avec la gendarmerie le 15 mai à l'université Gaston Berger de Saint-Louis. Éric Manirakiza a joint à Dakar l'analyste Ibrahim Akan.
Les étudiants avaient pratiquement posé des conditions qui créaient un blocage total dans la recherche d'une solution. Donc il fallait qu'ils fassent montre d'une certaine générosité et il l'a cette fois-ci fait dans le cadre de l'augmentation des bourses. Et puis on est à un an des élections. Macky Sall veut se faire réélire et donc il a besoin de donner, ne serait-ce qu'à la communauté universitaire, des gages au moins d'un soutien ou autrement d'une position de neutralité dans les élections qui vont venir.
Est-ce que c'est amplement suffisant pour apaiser les esprits?
Pas tout à fait certain, parce qu'il y a maintenant une division entre les étudiants de l'Université de Saint-Louis qui n'ont même pas participé à la réunion d'hier au cours de laquelle le président a fait cette annonce et le reste des étudiants du Sénégal. N'oubliez pas que la crise est née à l'Université de Saint-Louis et que ces étudiants avaient vraiment des demandes très claires, très précises. Et deuxièmement, la crise de l'université n'est pas simplement une crise de bourse ou bien une crise alimentaire. C'est la place de l'université dans la société sénégalaise. Vous avez une université à Dakar qui fait 100 000 étudiants. 50 000 de ces étudiants font lettres. Le Sénégal n'a pas les moyens d'employer 50 000 professeurs. 90% seront des chômeurs. L'éducation au Sénégal est en crise depuis 1988 et aucun des gouvernements n'a pu trouver de solution. WAD avait généralisé les bourses et maintenant, on se trouve dans une situation où ces bourses sont insuffisantes et les étudiants en demandent plus.
Macky Sall pourra tenir le coup?
Je voulais juste sur ce point vous dire une chose qui est vraiment extraordinaire au Sénégal. C'est le seul pays en Afrique de l'Ouest où, dès qu'on arrive à l'université, on a une bourse. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. La bourse, c'est toujours l'expression d'un encouragement à l'étudiant. C'est aussi le reflet du niveau du travail que l'étudiant a fait pour pouvoir continuer ses études. Mais donner une bourse à tout étudiant, pour moi, c'est vraiment quelque chose d'inacceptable parce que l'État ne peut pas tenir le coup. Plus on aura d'étudiants, plus les problèmes économiques vont se poser à ce même gouvernement. Et donc, il faudra vraiment crever l'abcès. Il y a un an, une structure avait été mise en place pour régler ce problème. Et une des propositions de cette structure, c'était justement de revoir toute la problématique des bourses au Sénégal. Malheureusement, on est encore dans la politique politicienne. On ne semble pas être pressé pour mettre en application ces recommandations.
C'était l'analyste Ibrahim Khan, joint à Dakar. Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique en direct de Washington. Voilà, c'est tout pour cette édition matinale. Merci de l'avoir suivi. À la console, Cornelis Wilson. Merci à Anne Albertson pour le suivi de l'actualité et la mise en onde. Un grand merci à toute la rédaction. Idrissa Seloudia à Washington. Bonne journée à l'écoute de VOA Afrique.